Salut, c'est Superplage et vous écoutez choc.ca.
Vous écoutez Dans les airs en ce lundi 6 février. Comment ça va les filles? Je suis Florence et je suis en compagnie de...
Olivia
et Raja.
Oui.
Allô, allô.
Est-ce que vous êtes sorties un peu du froid de la fin de semaine?
Moi, pas vraiment. J'ai eu l'occasion de suivre l'actualité culturelle de chez moi et donc ça m'a fait plaisir.
Ah, c'était froid là?
Ouais.
Très, très froid. Moi, je suis quand même sortie samedi soir. J'ai bravé le froid pour aller au Verre Bouteille voir les fées. Puis je vous en parlerai en plus tantôt. C'était un super show, mais il faisait tellement froid à glacer le sang. J'ai eu des pensées là, pour tout le monde qui ont eu de la misère avec leur chauffage, qui n'ont pas un toit stable. Tu sais, il y a des refuges qui ont...
Oui,
qui...
et pour toutes les personnes qui travaillent, comme les livreurs et tout ça. Donc, force à eux et...
Ouais, je pense que c'était des records de température. On n'avait pas vu ça depuis 1994 à Montréal.
Ah oui.
Les températures enregistrées, là.
Vendredi soir, moins 30 dans le quartier des spectacles. Mais ça vaut la peine pour voir une représentation comme je t'écris au milieu d'un bel orage. Puis on s'en parle de
ça plus tard. Mais c'est ça. On est quand même allé. On a bravé le froid cette semaine pour aller voir des spectacles. Les salles étaient accueillantes et...
Et chaudes,
oui. Ouais. J'étais contente de ne pas aller voir de spectacles à l'extérieur. Quoique, je pense que le Igloo Fest reprend cette semaine. Donc, vous pouvez sortir. Je pense que ça va être moins froid. Mais habillez-vous chaudement quand même.
On veut pas et profiter du froid. Parce que
oui,
on peut quand même en profiter.
Oui, il faut juste être bien habillé, comme dirait ma grand-mère. Moi, je suis allée voir Clandestine cette semaine... mercredi soir dernier, c'était une représentation. Je suis allée la voir avec ma maman parce que c'était sa fête mardi, puis je lui ai offert pour sa fête. Je trouvais que c'était une belle occasion.
Joyeux anniversaire à ta maman.
Merci. Merci, je dis merci pour elle. Mais ouais, Clandestine au Centre du théâtre d'aujourd'hui, c'est une pièce qui est en représentation jusqu'au 11 février. Les places sont encore limitées, alors vraiment... Allez voir sur leur site pour réserver les billets rapidement. Ça part comme des petits pains chauds. C'est un texte et mise en scène de Marie-Ève Milo et texte et interprétation de Marie-Claude Saint-Laurent. C'est une pièce qui parle de la fragilité de l'avortement. C'est une pièce qui parle des femmes. Ça se passe dans un univers, un Canada dystopique. Une médecin et une sage-femme pratiquent des avortements dans la clandestinité, d'où le nom « clandestine ». Un soir, alors qu'elles attendent leur dernière patiente, l'inattendu se produit et leur vie bascule. Se révèle alors un réseau qui cherche, par tous les moyens, à remettre en question le statut du fœtus. Depuis quelques années, les groupes anti-avortement rajeunissent, se politisent et développent de nouvelles stratégies, pendant que des hommes et femmes politiques n'hésitent pas à se montrer en faveur de la réouverture de ce débat. Inspirés par ce double constat et par l'histoire de l'avortement au Québec, Marie-Ève Milo et Marie-Claude Saint-Laurent entremêlent habilement des trames politiques, judiciaires et intimes et livrent un puissant thriller politique qui brouille les pistes entre passé et futur proche. Alors, c'est quelque chose parce que ça se passe vraiment en 2025 et c'est frappant parce qu'on se dit souvent, ben voyons donc, ce débat-là est tellement dépassé. Tu sais, l'avortement, c'est pas une question, mais...
Ça ne pourrait pas nous arriver.
Exact. Puis moi, cette pièce-là, ce que ça m'a fait réaliser, en fait, je ne savais pas, mais il n'y a pas de droit à l'avortement au Québec, officiellement. Ce n'est pas un droit. Il n'y en a juste pas qui l'empêchent, tu sais, dans le code civil.
Ah, OK.
Donc, c'est intéressant parce que, en fait, ça montre que l'idée des groupes anti-avortement, souvent, c'est de morceler tranquillement le droit à l'avortement par des... C'est pas du jour au lendemain, tu sais. qu'on bascule. Oui. C'est vraiment graduellement, puis c'est ça que la pièce montre, en fait. Okay. C'est comme ça qu'on fait reculer, tu sais. C'est en grugeant petite bouchée par petite bouchée le droit des femmes. D'ailleurs, après la représentation, parce que je ne vais pas entrer dans les détails de la pièce, je veux vraiment que vous allez la voir en salle. C'est un 2h45 qui passe comme ça. Il y a une entracte, bien sûr, parce qu'il y a 2h45. Il faut une entracte pour se reposer l'esprit, mais vraiment, la première partie, la deuxième partie nous amène ailleurs. Les acteurs, ce qu'ils projettent, c'est magnifique. Vraiment, il y a une complicité, ça roule. Il y a une belle mise en scène aussi. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que je veux vraiment que vous allez voir cette pièce-là. Ce qui était intéressant à la fin de la pièce, c'est qu'on avait une discussion avec les acteurs, toute la distribution, mais aussi celles qui ont co-écrite la pièce, donc Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent, qui sont venues sur scène pendant 30 minutes après la pièce. Ils invitaient le public à rester, à aller chercher un verre puis revenir parler de justement cette pièce-là, d'où était venue l'idée,
okay.
L'écriture. Donc, même après 2h45, moi, ça me tentait encore d'entendre parler, puis encore plus de voir c'était quoi leur vision. Puis c'est exactement ce qu'elles expliquaient, en fait, c'est que cette pièce-là avait commencé à naître dans leurs idées il y a de ça quelques années. Puis, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ils ont ressenti encore plus le besoin de parler de l'avortement et tout ce que ça... tout ce que c'est dans une société, tout ce que ça représente comme droit pour la femme. Donc, c'était vraiment intéressant de voir à travers le temps. Après ça, il y a eu la pandémie, c'est sûr, mais c'est de réaliser que c'est un droit qui est très fragile.
Oui, et il faut savoir aussi qu'avec la montée de l'extrême droite, même en Europe, plusieurs pays comme l'Italie, comme la Hongrie, la Bulgarie et tout ça, réfléchissent à ce que ce droit à l'avortement est en fait remis en question dans plusieurs pays. Il est même interdit dans d'autres. Et,
c'est ça.
Ouais.
Et en fait, même que dans cette discussion-là, ils ont amené que la députée du Parti conservateur, une des députées, a présenté un projet de loi, C-311, récemment, qui ajoute deux nouvelles circonstances aggravantes au Code criminel du Canada. En fait, ce que ça dit, c'est que les crimes consistant à agresser consciemment une femme enceinte et à causer des dommages physiques ou émotionnels seront pris en compte par les juges en fonction de leur gravité au cours du processus de détermination de la peine. Ce que ça dit, c'est qu'une femme enceinte qui est agressée physiquement ou émotionnellement, cette agression-là a une plus grande cause pénale à la cour. Donc, qu'est-ce que ça définit ensemble en tant que société si une femme enceinte... c'est plus grave d'attaquer une femme enceinte qu'une... Tu sais, il y a tous ces questionnements-là parce que en fait... Le fœtus n'est pas défini. Le statut fœtus n'est pas défini.
En fait, ça revient à définir un nouveau statut au fœtus comme quoi c'est deux personnes.
Comme c'est deux personnes. Donc, une personne qui se fait avorter, ben là, est-ce que c'est une cause pénale? Donc, et vous voyez, c'est très petit comme changement à la loi. Même que dans notre... dans la vision qu'on se fait sociétalement, tu sais, c'est pas... on empêche les femmes. Y a pas, c'est pas de dire vous avez plus le droit de vous faire avorter. Oui. Là, mais c'est...
Ça vient petit à petit.
Exact.
En fait, c'est comme un effet boule de neige qui, à la fin, c'est vous n'avez pas le droit d'avorter.
Oui, donc c'était super intéressant. Vraiment un beau miroir de notre société. Je pense que c'est une des forces du théâtre. Puis j'ai vraiment été contente. Alors, allez voir Clandestine au Centre du théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 11 février. Les dates sont encore disponibles sur le site. Et puis, dans la thématique de l'avortement, Raja va nous parler du film...
De Annie Colère.
Oui, donc on va se laisser en musique.
Oui.
Puis, on revient vous parler de Annie Colère. On se laisse sur Fire de Muosa.
Classique, affaire classée, effacer c'est facile, une affaire facile. Je vais dominer comme Nadal à Paris ou de Pac à Cali. Même les rappeurs armés n'auront pas le calibre. On vit pour canner, cramer, je vis pour gratter, cracher des flots smooth comme si c'était écrémé. Crois-moi, j'ai pas de trop, mais quand je dis que le rap, j'ai le sauvé. Je le cuis, sans le crime, je la paye grâce à ce que j'ai créé. Agir dans l'entrejambe de l'autre genre. Tu fais genre, mais pour sucer des bêtas, beaucoup d'autres gens. Évite les gars, c'est les garçons. Dans mon verre, mes glaces sont frais, je me regarde sur la
kill le game comme déjà fait. M'égaler jamais, les gars disent que le game est jamais. Je vais le déboucher, une main dans la poche comme Jamel. Yeah, yeah, I'm on fire. Famos découpe les samples. Ici on compte les sommes, pas sur les hommes. J'arrive dans le game, le ventre vide. Je vais mourir comme une légende. Il me reste 9 ans de vie. Faut tes photos, je rentre pas dans le cadre. Pas capable de rap cap, no cap. Mon gars, mon cas est impeccable. Je sais pas pourquoi ils ouvrent leur bouche. Toute façon, je suis béni comme des bouts. Je me lèverai rap sur un piédestal. Dans le game, je m'installe pour remplir des salles. J'éteins le texte propre sur un beat sale. Personne peut beat ça. Ton bruit nu, j'arrive comme s'il était minuit. Pour les sourds, pour l'instant je gratte à tous les jours. Quand j'écris je me défoule car ce que j'écris bougera des foules. C'est fou, aucun défi quand je finis c'est fou. T'es su, t'es chou, il suit tes joues et il sou.
C'était Fire de Muza, vous écoutez Dans les airs. Alors les filles, aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler de Annie Colère, qui est un film qui sera à l'affiche à Montréal à partir du 10 février dans les salles de cinéma. Et donc c'est un film français réalisé par Blandine Lenoir, qui est d'ailleurs son troisième long métrage, et avec comme protagoniste la comédienne multicésarisée Laure Calamy. Alors, Annie Colère traite du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, communément appelé le MLAC, et qui a contribué de manière décisive au changement de la loi sur l'avortement en France, et qui a été, et ce mouvement a été fondé en 1973. Alors, pour vous reprendre un peu le synopsis du film, février 1994, parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l'aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver sa, dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement qui donne un nouveau sens à sa vie. Alors tout au long du film, en fait, on suit Annie, qui est la protagoniste, avec une proximité. Et on est tellement proche avec cette actrice qu'on suit d'ailleurs le film. On suit son quotidien, ses rencontres, sa vie au sein du mouvement, sa vie avec ses amis, sa vie au travail avec son mari. Et donc, il y a tellement une proximité qui s'installe que on partage ses émotions, que ce soit son angoisse de l'avortement, que ce soit son enthousiasme quand elle commence à adhérer à la lutte, quand elle commence à aider à son tour d'autres femmes. Alors, dans ce film, plusieurs éléments... Je ne veux pas raconter toute l'histoire parce que le film sera dans les salles et donc je vais donner juste ce qui m'a vraiment marqué. Et donc, il y a plusieurs éléments qui m'ont marqué et que j'ai trouvé très, très intéressante. D'abord, il y a une phrase qui est très représentatif du mouvement, en fait. C'est la suivante. Quand elle est partie au MLAC pour qu'elle se fasse avorter, elle a eu la chance de rencontrer ce mouvement, de rencontrer ces personnes-là. On lui a dit qu'ici, ils pratiquent l'avortement illégal, mais pas clandestin. Parce que La différence, et j'imagine que vous imaginez un peu c'est quoi la différence, c'est que l'avortement clandestin, c'est un avortement qui se fait avec des matériaux qui sont pas médicaux, un matériel qui n'est pas médical, avec un matériel qui n'est pas stérilisé, avec des manières, on dirait même barbares même. Et là, c'est un peu la différence avec la manière avec laquelle procède le MLAC. Et il faut savoir que le MLAC a vu le jour en réaction aux centaines de décès provoqués par des avortements clandestins. Et donc, c'est un peu comme tu disais, et c'est en vue de cette réalité-là que ce mouvement a vu le jour et que des médecins ont adhéré à ce mouvement. Et des médecins, malgré que si jamais ils allaient... on aurait comme su ce qu'ils faisaient, ils allaient être expulsés, ne plus faire partie de l'ordre des médecins, ils pourraient même aller en prison. Le MLAC a réussi à regrouper des médecins, des infirmières, des femmes dans un environnement de partage de connaissances. Aussi, ce film, il traite essentiellement de l'avortement, mais pas exclusivement. Parce qu'à côté, il traite des moyens de contraception, il traite de la violence conjugale et il traite également des rapports inégaux de genre. Et ces rapports inégaux de genre, ils montrent à quel point ils sont profondément ancrés, qui sont ancrés même chez les médecins, par exemple, qui font partie de la cause. Mais derrière, il y a toujours... En fait, c'est un film qui est porteur de plusieurs messages et que j'ai trouvé très, très intéressant et qui n'est pas dans les clichés et qui n'est pas qui a su être juste et fidèle à la réalité de l'époque. C'est également un film instructif et éducatif parce qu'il nous explique, on comprend en fait, ils expliquent aux femmes, mais... Ils nous expliquent, nous aussi. Ils expliquent aux femmes qui veulent avorter comment le médecin va procéder, avec quel outil, avec quel matériau, avec quelle méthode. Et ça pointe ici l'importance de connaître notre corps, que ce soit à l'époque, que ce soit pour les personnes qui veulent avorter ou pour que ce soit pour tout le monde, en fait. L'importance de connaître son corps pour pratiquer l'avortement ou n'importe quelle intervention médicale, en fait.
Oui, parce qu'il y a des personnes qui se font avorter de manière justement clandestine, mais qui ne sont pas en mesure de... Ils ne connaissent pas leur corps.
Oui.
Puis il y a des histoires d'horreur comme utiliser un cintre ou même un... Tu sais, je veux dire, c'était nommé dans la pièce.
Des aiguilles de tricot. Oui, exactement.
Tu sais, des histoires de femmes qui mettent des sacs de plastique à l'intérieur de leur... Ouais. Tu sais, c'est comme... Il y a des horreurs, là.
Et ils reviennent sur ça dans le film.
Ah oui.
Ils reviennent sur ces anciennes méthodes. Ils montrent ce que ça peut... Les traumatismes qu'ils causent, ces méthodes. Parce que si... La personne a la chance de survivre à ça et ne pas par la suite perdre sa capacité de donner des enfants ou ne pas perdre sa vie, tout simplement. Ça laisse des séquelles psychologiques assez profondes. Et le film, il retrace ça également. Et ça montre le fait de connaître, ça montre le soulagement que cela apporte d'un point de vue psychologique. Parce que tu sais à quoi tu vas t'attendre, tu sais ce qu'on va faire de ton corps et donc de toi-même. Alors, en regardant ce film, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe au Maroc. Parce qu'il faut savoir que l'avortement volontaire de grossesse est malheureusement illégal au Maroc.
Oui.
Il y a quelques exceptions. Si jamais l'enfant, Je suis sûre que si l'enfant, il constitue une menace pour la vie de la maman, c'est possible. Et la deuxième, je ne suis pas vraiment sûre, mais si l'enfant a une déformation et que les parents décident d'avorter, c'est possible. Mais si c'est une volonté de vouloir ne pas avoir cet enfant-là, que ce n'est pas le moment ou que c'est illégal au Maroc.
Oh,
parce que...
Oh, wow.
Oui, et...
Parce que l'avortement volontaire, il est synonyme de relation sexuelle hors du mariage, qui est illégal au Maroc.
Hmm. Et est-ce donc que c'est illégal ou c'est proscrit? Est-ce que c'est, je veux dire, une convention culturelle de ne pas avoir de relation sexuelle ou c'est vraiment illégal?
Non, c'est illégal. Il y a des conséquences pénales. Tu peux aller en prison après si
ah, oui.
il y a des relations sexuelles hors du mariage. Courant. Et donc, c'est toujours le cas. Et le fait, et dans ce film, il montre que le fait de l'avortement, c'est pas comme le résultat d'une relation sexuelle hors du mariage. Il y a des femmes qui veulent pas avoir des enfants, il y a des femmes qui n'ont pas les moyens financiers, il y a des femmes qui ne veulent juste pas avoir plus d'enfants. C'est pas toujours synonyme de ça. Et donc voilà, comme je disais, dans le film, il montre plusieurs cas de figure. Au Maroc encore, il y a plusieurs avortements clandestins. C'est comme dans le film et comme dans ce que tu disais. Il y a plusieurs avortements clandestins qui mènent au décès de plusieurs jeunes femmes. Mmh. Et donc voilà, il y a plusieurs mouvements militants femmes, pour que la loi contre les relations sexuelles soit abolie, la loi contre que le droit à l'avortement ait lieu au Maroc. Et c'est le cas pour plusieurs autres pays. Et donc ce film, il constitue comme une lueur d'espoir. Il revient sur à quel point c'était, à une époque imaginée, impossible, mais que c'est possible. Et donc cet espoir-là, il est donné par ce film. Et donc je trouve ça très intéressant. Et il montre que la lutte, elle paye. Parce que c'est grâce à ce mouvement-là qu'en France, l'avortement a été possible. Et donc... tout est possible, quoi.
Un désir d'espoir.
Ouais.
C'est de dire que si on soulève, si on fait entendre les voix,
oui.
les droits...
Exactement.
Les choses changent. C'est voilà. beau, quand même.
Ouais. Et c'est une lueur d'espoir pour plusieurs de pays qui mènent cette lutte et d'autres luttes en relation avec les droits et les libertés individuelles.
Très pertinent en France aussi, avec la montée de l'extrême droite. Et des partis nationalistes qui se donnent comme objectif d'interdire catégoriquement l'avortement à des fins de faire croître la race blanche.
Ah oui, hein.
Ouais. Et c'est justement c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Puis le travail des artistes, c'est de faire leur propre propagande pour lutter contre la propagande de l'extrême droite, et même pas de l'extrême droite, parce qu'il y a bien des gens au centre, au juste milieu politique, qui ne se prononcent pas d'un côté ou d'un autre sur l'avortement, mais le silence, ça reste une opinion.
Mais c'est que ça devient politique, c'est comme si on déshumanise les corps, La deuxième partie de la pièce clandestine, c'était ça aussi. La première partie, on voyait les médecins, les clandestines, en fait, qui permettaient aux femmes, à travers, dans un sous-sol caché, codé, de pouvoir se faire avorter illégalement, avec du matériel médical. Mais dans la deuxième partie, on voyait tout le côté froid des relations publiques. Tu sais, il y avait un personnage, un politicien, qui mettait en place une règle, puis on voyait même des segments où est-ce qu'ils faisaient des discours politiques, puis les gens qui adhéraient, puis c'était très confrontant.
C'était instrumentalisé.
Ah oui.
Et
les femmes, moi je me suis sentie, à travers les personnages sur scène, je me suis sentie instrumentalisée.
Mm-hmm.
J'ai eu envie, là, de... C'était très provocateur, et je pense que c'est ça...
Oui.
Un succès de ces spectacles, et
c'est que ce soit ces réalisations, ouais. C'est de créer une certaine révolte, créer
un éveil.
Oui, exactement.
Une colère. Et je vois que Annie Colère sera dans le cinéma Beaubien le 11 février à 18h40. Moi, je pense que je vais acheter des billets.
Ouais, moi aussi, c'est une invitation. Cinéma Beaubien à Annie Colère. Merci beaucoup, Raja,
mais je vous pour en
ce
prie.
Partage.
Je vous en prie.
Puis, on va se laisser sur Ouragan par Jeanne Côté, et on vous revient avec la pièce « Je t'écris au milieu d'un bel orage ».
Côté. Je suis allée voir « Je t'écris au milieu d'un bel orage » au Théâtre du Nouveau Monde, vendredi dernier, quand il faisait moins 30. Donc, le descriptif du site web en premier. La magnifique Anne Dorval interprète l'électrisante complexité de Maria Cazares, alors que l'admirable auteur et comédien Steve Gagnon porte la parole d'Albert Camus. C'est une histoire d'amour entre Maria Cazares et Albert Camus, faite à partir de leurs lettres d'amour. À la mise en scène, l'attentif et novateur Maxime Carbonneau, complice de longue date de Danny Boudreau, qui fait son entrée au Théâtre Nouveau Monde. Beaucoup de commentaires. Sans divulgâcher, je vous explique. Le dialogue, ce n'est pas facile de faire vivre les mots d'une lettre d'amour d'ancien temps sur scène, de faire un show intéressant. Cazares a fait beaucoup rire quand elle a parlé de Montréal, ben, à travers ses lettres à Albert Camus. Ça tend un peu une main vers l'audience, puis s'insère un peu dans notre monde, dans notre univers. Ça raconte beaucoup la vie personnelle de la famille à Albert Camus, qui est resté avec sa femme Francine et ses enfants pendant longtemps, avant de reprendre sa vie avec... avec Maria Cazares. Si vous connaissez l'histoire d'Albert Camus et de son décès, vous allez savoir comment ça se termine. Mais pour nos auditeurs qui ont envie de connaître son histoire à travers cette nouvelle pièce de théâtre, je ne vais pas gâcher.
Tu fais bien, moi je vais la voir jeudi.
Oui.
Donc je vais quand même garder le suspense. C'est ma sœur qui a offert ça à ma famille pour Noël. Très hâte de voir Anne Dorval, de voir le TNM livrer une pièce de Camus. Très hâte de voir ça.
J'ai quelques commentaires sur l'interprétation par notre célèbre Anne Dorval et Steve Gagnon. Mais Anne Dorval, je la connais des films de Xavier Dolan.
Oui.
Et elle a une super grande carrière. Je suis allée avec une amie française qui ne connaît pas Anne Dorval du tout. À la fin de la pièce, je lui ai dit « Est-ce que tu sais que c'est Anne Dorval? C'est comme une artiste célèbre au Québec. » Ben non, je ne connais pas Anne Dorval, mais elle a très bien, fait sa performance. Puis c'est vrai, elle a incarné le personnage de Maria Cazares avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis allée, après le show, je suis allée voir des anciens en interviews qui ont été repris pendant la pièce. Juste pour voir quelle est la proximité entre ce personnage, excuse-moi, quelle est la proximité entre ces deux personnages, genre celle qui est incarnée par Anne Dorval puis le réel Maria Cazares, et c'est vraiment intense comment elle a fait un super beau travail de représenter, de prendre son accent espagnolo-français. Puis ses gestes. Mes commentaires sur la mise en scène, c'est romantique. C'est très romantique dans la pièce. On a des rideaux, lumière, tout ce qu'on peut attendre d'une pièce de théâtre moderne et au bel endroit, théâtre du Nouveau Monde. L'accompagnement audiovisuel, noir et blanc, en couleur, super bien faite. Puis, bien sûr, quelque chose que j'ai appris pendant mon entrevue avec Anne-Marie Olivier, qui a créé la pièce Maurice. Dans les salles de théâtre, on brûle de l'encens pour montrer qu'il y a un personnage qui fume, parce que c'est interdit de fumer dans les salles de spectacle.
Ah ouais,
c'est un trick of the trade. Et c'était présent parce que Maria Cazares et Albert Camus fumaient énormément en écrivant leurs lettres pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils étaient au lit. Et alors, j'espère que ça vous donne le goût d'aller voir les prochaines représentations. Donc, au Théâtre du Nouveau Monde, je t'écris au milieu d'un bel orage jusqu'au 11 février.
Et jusqu'au 11, c'est la même chose pour Clandestine. Courez, courez, allez chercher vos billets. C'est fou comment c'est étoffé culturellement le théâtre en ce moment à Montréal.
Il y a énormément. Vous pouvez pas vous ennuyer.
Juste ça, des fois. Tu sais, je lève ma tête là, puis des fois je vais comme, tu sais, dans surtout les bars comme le Verre Bouteille ou l'Esco. Tu sais, t'as souvent des affiches avec les événements culturels. Là. Il y en a tellement! Genre, je prends des photos, puis là, je suis comme « Ah, il y a ça, il y a ça! » Mon Dieu, c'est fou, mais merci. Puis j'ai très, très hâte d'aller voir « J'ai écrit au milieu d'un bel orage ». Vraiment.
Ça vaut vraiment la peine.
Et comme tu as dit, ils se sont basés sur les vraies lettres d'échange?
Oui.
OK.
Oui, les vrais échanges. Et l'adaptation est très, très bonne. D'ailleurs, ça me rappelle de donner plus d'informations sur les credits. Idéation et adaptation de Danny Boudreau, mise en scène de Maxime Carbonneau. Et c'est une production Théâtre du Nouveau Monde en collaboration avec la Messe Basse.
Mais c'est fou, les correspondances. Imaginez une pièce en 2070 où c'est des correspondances entre des jeunes de 2010. Genre, tu sais, c'est comme des amoureux.
J'ai hâte de voir des textos dans le théâtre.
C'est beaucoup moins romantique.
Ouais.
Il y a comme... Ouais. Mon Dieu. Moi, j'ai trouvé récemment des anciens courriels. Je sais pas si vous faisiez ça avec vos amis, des anciens courriels que j'envoyais à des amis quand j'avais genre 9 ans. Puis c'est tellement drôle. On a retrouvé, c'était comme on s'écrivait une phrase. Puis c'était comme, oui, j'ai passé une belle fin de semaine. Et toi?
Nous, en fait, quand j'étais petite, dans l'école dans laquelle j'étais, on faisait des correspondances avec des étudiants en France. Donc on s'échangeait des lettres dans le cadre du programme scolaire.
On dirait que j'aimerais ça, faire ça. Je note ça à ma liste de choses, là. Faire une correspondance avec quelqu'un.
C'est tout un art, savoir comment écrire des lettres.
Oui, et vous savez, dans un contexte plus militant, dans les pays où il y a pas, il y a la guerre quoi, et où il y a où il y a de la dictature et tout ça.
La censure aussi.
Exactement. Je prends juste l'exemple de Angelina Jolie qui est en correspondance avec une fille qui lui explique exactement et ce qui se passe. Je pense en Afghanistan ou dans un pays qui est tout proche et ça laisse comme une réelle trace de ce qui se passe parce que les médias dans des pays comme ça ne vont jamais relater la réalité et donc la correspondance avec des personnes qui la vivent, c'est une trace historique, c'est très intéressant.
Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est fou comme l'information nous dit beaucoup de choses. Ouais.
C'est sûr, dans la pièce que j'ai vue, il y a moins de politique. Oui, même sûr. Que la ouais. guerre débarque et Camus rompt avec certaines personnes en raison de leurs affiliations politiques. Ah ouais. Mais
c'est une pièce romantique.
Oui. Oui. Romantique, sauf avec Jean-Paul Sartre, pour qui il n'y a pas beaucoup de romance entre Camus et Jean-Paul Sartre. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, oui. Mais tu vas le connaître.
Ah oui, ok, j'ai trop hâte. Donc, sur ce, on va se laisser sur Shades of Blue par Sophia Bell. C'était Sophia Bell sur la chanson Shades of Blue, une chanson qui paraîtra sur son album Deluxe qui va sortir le 10 février prochain, son album Anxious Avoidant qu'elle a sorti en 2022. Sophia Belle, qui va justement faire partie du Taverne Tour. Mais c'est quoi le Taverne Tour? C'est une tournée de tavernes à Montréal qui se déroulera du 9 au 11 février. Pour les amateurs de musique, comme les non-amateurs de musique, mais qui aiment ça aller voir des shows, là, vous serez servis. Ça se passe sur Saint-Laurent, Mont-Royal, Saint-Denis, à l'Esco, au Quai des Brumes, à La Tulipe, au n'importe où, le ministère. Toutes ces tavernes, comme la Taverne Saint-Sacrement même, vont être remplies de talentueux et talentueuses musiciens et musiciennes qui vous offriront des shows. Sophia Belle, justement, va être là le 10 février au Quai des Brumes. Je vais avoir la chance de la rencontrer en entrevue. Et aussi à l'Allo Fantôme et de Célise, qui sera à la Sala Rossa le 11 février, samedi. Vraiment, allez voir la programmation. C'est tout sur le site tavernetour.ca. Manquez pas ça, là, vraiment. Quand je vous dis qu'on a tellement d'offres culturelles, là, c'est
attache ta tuque cette semaine.
Ah ouais, puis attachez votre tuque littéralement parce qu'il va continuer à faire froid. Donc, portez votre tuque.
Dans les arts devient un show de météo.
C'est ça.
Oh, je sais que vous annonce.
On vous annonce les bulletins météo. Si il y a des gens de Québec qui nous écoutent, ne pleurez pas. Je sais que ça se passe tous à Montréal, souvent les shows qu'on vous raconte. Là, on essaie vraiment de se délaisser, d'être le moins Montréal-centriste possible. Donc, il y a le Fuck Off Show qui se passe... le Fuck Off qui se passe à Québec du 10 au 18 février pour la 9e édition. C'est le Festival déjanté de diffusion alternative à Québec. Encore une fois, là, vraiment... Il y a tellement, tellement d'artistes. Vanney, qui a sorti son album la semaine passée, La Clairière, vendredi dernier, va être là pour son lancement d'album. Il y a aussi le Ballon Bleu de Velours Velours, celui de Québec, que Estelle est venue nous présenter.
Oui. Donc, elle n'a pas raté.
Ouais, va être pendant le Fuck Off. Ça se passe un peu partout, bien évidemment, surtout au Fantôme, qui est une salle mythique à Québec, mais il y a plein d'artistes. Allez voir au fuckoff.com, vous allez voir toutes les shows, Ariel Soucy, Beau Nectar, Bibi Club, Doudoudou. Je pourrais vraiment, j'ai une liste éternelle.
Et pour nos auditeurs, Fuckoff écrit P-H-O-Q-U-E.
Ah, c'est un très bon point, comme un fuck. Pas, ouais. Vous comprenez la nuance, en plus c'est...
Comme l'animal.
Comme l'animal, merci. J'ai eu un peu de misère. Mais voilà, donc le Fuck Off du 10 au 18 février à Québec et le Taverne Tour du 9 au 11 février à Montréal. Ne manquez pas ça. Donc, sur ce, moi, je vais vous raconter mon escapade au Vert Bouteille samedi soir dernier.
Avec les filles.
Avec les filles! Oui. Les filles, les fameuses... Les filles... mon Dieu, que j'avais des appréhensions pour ce spectacle. Je pense qu'on s'en était parlé un peu, mais c'est un band. Ça fait à peu près un an qu'ils ont commencé à faire des choses ensemble. Le 9 février dernier, ils ont sorti leur premier album « Mentir, mon plaisir », un micro-album de 4 chansons que je passe et repasse en boucle. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que mes collègues sont tannés de m'entendre. En fait, non, ils ne sont pas tannés parce qu'ils m'ont accompagné au show samedi soir. Ils trippent autant que moi. Mais vraiment, peut-être que mes voisins sont tannés d'entendre mes 4 chansons. Je les écoute vraiment en boucle. J'ai un gros coup de cœur musical. Ça faisait longtemps que ça m'est arrivé, ce gros coup de cœur comme ça. Elles ont sold out le Quai des Brumes pour leur lancement d'album en janvier. Et là, elles ont sold out encore le Vert Bouteille. Donc, c'est pas rien pour des artistes émergentes. L'effet un peu sur eux, là, c'est un groupe de musique, de jazz entièrement féminin. Donc, de A à Z, les musiciennes, les interprètes, la direction artistique.
Et quand elles jouent sur scène, elles sont 6.
Elles sont 6, ouais, exactement. Le band est composé de Charlie et Irma, c'est les deux principales, mais elles se présentent vraiment pas comme ça. Justement, un aspect qui m'a marqué puis qui me touche beaucoup d'entre elles, c'est que elles veulent vraiment veiller à l'inclusion de toutes, de tous,
sans
en fait.
Sans hiérarchie, en fait.
Sans hiérarchie, exact. Tu sais, les filles, là, tu vas voir les filles, tu vas pas voir Charlie et Irma, là, tu vas voir les filles. Irma, elle est avec son violoncelle, son piano et sa voix douce et fine. Charlie, sa voix enveloppante et suave. Gros coup de cœur. Rosalie Desrochers, qui est à la direction artistique, stylismebleu.fleux.x si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Là, je pense qu'elle a sorti justement une ligue de vêtements, okay, un tricoté à la main, que les filles portaient à leur lancement en janvier. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est super beau ce qu'elle fait. Vraiment, il y a un esthétisme aussi. Là. Les musiciennes, donc on a Reb Legault qui était au drum, on a Albertine Poirier à la contrebasse et à la basse électrique, on a Delphine Dulude à la guitare électrique et aux back vocals, Florence Bocquier-Léger au saxophone et à la flûte. Quelle musicienne! C'est fou! Puis en plus, que justement, comme pour montrer qu'il y avait... C'est vraiment un groupe, c'est un ensemble. Mm-hmm. Bien, sur scène, le placement, on voit toutes les interprètes. Tu sais, des fois, là, tu vas voir des shows, puis tu vois pas tant le drummer derrière. Oui.
Puis il n'y a pas de lumière.
Oui, c'est ça. Puis tu vois juste comme la personne qui chante, mm-hmm, ou peu importe. Mais vraiment, là, le placement, j'ai trouvé ça, okay, génial, parce qu'on les voyait tous, chacune d'entre elles, avec des grands jets de lumière... très beau, qui variait selon les différentes chansons, chacune mais ensemble dans leur force.
C'est très avant-gardiste comme concept. La seule fois où j'ai vu une représentation comme ça, c'était Walk Off the Earth, puis ils jouaient tous la même guitare, comme on les connaît, Walk Off the Earth.
Ah.
Ouais.
Ah ouais.
Au Jazz Fest.
Ah, c'est vraiment, ben c'est ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Puis c'était touchant parce que justement, il y avait une complicité à travers ça. T'sais, j'ai l'impression qu'ils sont reconnaissants de faire ce projet-là ensemble, d'avancer. Elles sont venues, Charlie et Irma, au studio de Choc pour le palmarès il y a quelques semaines. Si vous voulez aller écouter l'entrevue avec Estelle, elles en parlent aussi. D'ailleurs, donc, c'est ça, le verre bouteille était complètement plein. Même qu'on est arrivé, on pensait être un peu d'avance. Puis toutes les places assises étaient pleines. Donc, on s'est installé derrière. D'ailleurs, on sous-estime les shows assis. C'est le fun. Il y a quelque chose de très convivial. J'ai vraiment trouvé ça le fun. L'ambiance était tamisée, la disposition de la salle. Il y avait comme une espèce de... OK, on est vraiment là pour écouter la musique. Mm. Le public était là, présent. On les écoutait. C'était super touchant. Puis les filles étaient toutes vêtues de grands vestons. Puis vraiment leur style, bravo à Rosalie pour ça, là. Et il y avait leurs cheveux en pince, des grands vestons, ils étaient super belles à voir, vraiment. Puis j'ai vraiment un gros coup de cœur. Elles étaient vibrantes et entières. Elles ont rempli les murs du verre bouteille de poésie, d'amour et de vrai. Elles ont touché quelque chose au fond de moi que je savais pas que j'avais ou que j'avais oublié que j'avais. Je sais pas si c'était vraiment comme personnel. C'est fou à quel point un spectacle peut,
oui,
te toucher toi, même si tu vis ça ensemble, mais aussi, mmh, avec toi-même. Là. Le sentiment d'être femme, le désir d'être là, à écouter ce Ben fleurir, la puissance de leurs harmonies. Waouh! Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Le show est entrecoupé d'anecdotes. Ça, c'est une des raisons principales pourquoi j'aime aller voir les shows, c'est que tu comprends un peu plus les artistes derrière l'œuvre, que tu comprends plus que, par exemple, en regardant sur Spotify, ouais, ou en regardant Instagram. Là.
Il y a un échange réel.
Vraiment.
Qui se fait.
Il y a un partage, mm-hmm, qui est très beau. Puis tu arrives à plus comprendre, par exemple, la chanson « Toujours pour elle ». C'est une chanson en hommage où Irma nous parle de sa grand-mère qui a quitté sa famille pour retrouver une amoureuse. Donc, je vais la mettre tantôt, là, toujours pour elle. C'est vraiment une des belles chansons. Charlie qui nous parle d'un accident d'auto qu'elle a eu sur la 138. Elles ont aussi, elles nous ont présenté des chansons.
Très personnelles.
Oui, très personnelles. Dans une simplicité, tu sais, c'était comme...
Il y avait combien de personnes dans la salle? Moi, j'aime toujours savoir.
C'était une centaine, je dirais.
OK.
Tu sais, le verre bouteille, c'est petit, là. C'est dur à dire parce qu'on était toutes...
Mais le contexte était très intime.
Oui, exact. Puis vraiment, tout le monde était là à écouter. Il y avait des gens debout qui dansaient un peu. Il y avait des gens assis. Tu sais, c'était... En fait, je pense qu'ils ont vraiment optimisé. Je pense pas qu'il y a plus de monde qui pouvait rentrer, là, le verre bouteille, là. C'était comme... On était toutes là, dans le chaud, justement, à se réchauffer, là. Charlie, elle nous disait qu'elle avait plus de chauffage depuis quelques heures ou jours. Force à elle, là. J'espère qu'elle a retrouvé son chauffage, mais... Mais à travers le froid, justement, ça a créé un moment encore plus intime. Là. Vraiment, ils nous ont fait découvrir un répertoire autre que les quatre chansons de Sûrement de mon plaisir. Vraiment, j'ai hâte que ça sorte. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez ça.
Ouais. Les voisins n'ont pas hâte.
Oui, les
filles qui sont devenues l'image bannière de notre playlist Bonne Vibration sur choc.ca.
Hey, vraiment, moi je pense qu'elles vont frapper le top du palmarès dans pas long. Là, on fait jouer leurs chansons. Et c'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai hâte que ça sorte sur Spotify. Malheureusement, seul, je peux vous raconter les shows, mais je peux pas vous raconter les chansons, à moins que vous vouliez entendre ma belle voix.
Ben oui, elle
est... C'est ça, je ferais... Non, non, je vous garde de
dans, ça. Dans le suspense, oui. Ouais, puis on attend avec impatience leur
sortie. Donc vraiment, même qu'il y avait des moments touchants, larmes sur les joues, l'extase d'une contrebasse qui tambourine sur les tempes, vraiment, j'ai été très émue par ça. Allez voir ce qu'elles font. Je pense que c'était leur dernier show à Montréal pour un petit bout. Elles vont justement sortir de la ville pour aller rejoindre, tu sais, aller en région. Elles ont dit qu'elles étaient un peu tannées justement d'être montréalocentristes. Donc, dès que je sais, je vous mets au courant de leur prochaine représentation. Ouais,
c'était super. Merci beau. De nous raconter tout ça. C'est, ça donne le goût d'aller voir des spectacles.
Oui, donc avec le Taverne Tour et oui. Le Fuck Off à Québec. Merci les filles pour cette semaine à Dans les airs. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous
sur ce qui se passe. Puis on se reparle la semaine prochaine après avoir baigné dans cette intensité culturelle à Montréal. Ouais. Cette semaine très chargée. Et ça dépend si on arrive à se procurer des billets.
Oui, vraiment, j'ai hâte de te reparler de « J'ai écrit au milieu d'un bel orage ». Et sur ce, on va se laisser sur l'effet, la chanson « Toujours pour elle ». Okay. On se laisse là-dessus.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye.
Elle se tourne et s'éloigne tout en gardant ses yeux sur moi. La romance dans son antre est condoléante. En silence, surtout ne jamais oser s'avouer vaincu. Dans son lit, elle se couvre de ses soucis. Elle repart, elle revient et je me relâche sa main. Mes désirs ne cesseront de plier mon dos. En silence, j'oublierai mon corps cru sur son oreiller. Dans sa chambre, je resterai éteindre mes vœux. Je reviendrai toujours pour elle. Je reviendrai dissimuler toujours pour elle. Toujours pour elle. Je me demande pourquoi le ciel sous ses yeux bleus s'écoule. C'est dans les cieux, il vaudrait mieux garder nos aveux. Je me demande pourquoi le ciel sous ses yeux bleus s'écoule. C'est dans les cieux, il vaudrait mieux garder nos aveux.
c'est dans les yeux, il vaudrait mieux garder nos aveux. Je me demande pourquoi le ciel sous ses yeux bleus s'écoule. C'est dans les yeux qu'il vaudrait mieux garder nos aveux. Je me demande pourquoi le ciel sous ses yeux bleus s'écoule. C'est dans les cieux, il vaudrait mieux garder nos âmes.